Bonjour à tous. Des armes françaises sont-elles utilisées dans la guerre au Yémen? Officiellement, non. Mais on va voir que les choses sont un peu plus complexes. Et on va le voir avec vous, Benoît Colomba. Bonjour.
Bonjour, Jacques.
Car on ne fait pas que vendre des armes à l'Arabie Saoudite, qui est en première ligne dans ce conflit. On en assure aussi la maintenance. Et on a vendu des bateaux qui pourraient être impliqués dans un blocus humanitaire.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite. Ce que je dois vous dire, cependant, c'est que des armes françaises peuvent être présentes sur ce terrain parce qu'elles ont été vendues il y a plus de 20 ans de cela. Donc, je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui.
Voilà, ça c'était le 20 janvier dernier au micro d'Ali Badou sur France Inter. La ministre des Armées, Florence Parly, assure qu'aucune arme française n'est utilisée au Yémen, sinon peut-être, c'est ce qu'on entend, des armes vendues avant le début de la guerre. Alors on n'en saura pas plus, car sur ce sujet il est très difficile d'obtenir des informations, mais c'est pour ça qu'à la cellule investigation de Radio France, on a voulu aller plus loin, voir dans quelle mesure la France pourrait être de près ou de loin mêlé à ce conflit. Parce qu'il faut le préciser pour commencer, Benoît Colomba, cette guerre, c'est l'une des plus meurtrières du moment.
Oui, une guerre qui a débuté dans les années 2000 et qui fait particulièrement rage depuis mars 2015. On parle de 10 000 morts civiles, sans doute beaucoup plus, avec d'un côté des rebelles chiites houthis et de l'autre une coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite où l'on retrouve notamment les Émirats Arabes Unis ou l'Égypte. Une guerre aux conséquences terribles pour la population yéménite, constate Lucille Grosjean de l'ONG Action contre la faim.
La situation est vraiment critique, on est en pleine situation d'urgence. Sur les 27 millions d'habitants au Yémen, trois quarts de la population a besoin d'aide humanitaire. C'est donc plus de 20 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, c'est des chiffres qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Et donc on est sur 12 à 14 millions de personnes, par exemple, qui sont en très forte insécurité alimentaire, qui sont au bord de la famine. On parle de 14 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins, vu que la moitié des hôpitaux, des centres de santé du pays, soit ne fonctionnent plus, soit sont endommagés. Une quinzaine de millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, ce qui explique aussi l'épidémie de choléra, qui est là aussi la plus grave jamais vue. Donc à tous les niveaux, cette crise, elle est hors de proportion.
Oui, hors de proportion. Et dans cette guerre, Benoît, il y a un acteur majeur, on le disait, c'est l'Arabie Saoudite. Or, nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite.
Oui, l'Arabie Saoudite est un client très important pour la France. En 2017, c'est le deuxième client français pour les livraisons d'armes, 1,3 milliard d'euros, le deuxième client juste derrière l'Égypte. C'est même le premier client de la France en termes d'autorisation d'exportation, la première étape avant la commande et la livraison, ce que confirme le spécialiste des questions de défense Jean Guinel.
L'Arabie Saoudite est un client essentiel pour les armes françaises. Quand vous vendez 1,3 milliard d'euros pour une année, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et surtout, vous espérez en vendre d'autres. Les flux sont constants, les négociations sont constantes. C'est un pays qui aide d'autres pays à financer leurs armements. On a beaucoup dit que les matériels achetés par l'Égypte ces dernières années, les Rafales, les bateaux, ont été en partie financés par l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un formidable client.
Ouais, un formidable client. Mais qu'est-ce qu'on lui vend précisément ?
Alors en fait, c'est assez difficile de répondre à cette question car s'il existe bien un rapport annuel sur les ventes d'armes remis au Parlement, il n'entre pas vraiment dans le détail, regrette Émeric Helouin d'Amnesty International France.
Il y a un manque de transparence totale, il y a une opacité. On a un certain nombre d'informations, mais ce sont des informations qui ne touchent pas aux catégories d'équipement. Donc on a des agrégats financiers qui sont délivrés sur les prises de commandes, licences.
Donc on ne sait pas précisément quel type d'armement.
Le gouvernement n'indique jamais précisément... Est-ce que c'est un véhicule blindé qu'on va vendre? Est-ce que c'est une frégate, etc. Alors évidemment, il y a des grands contrats, et quand on parle de grands contrats qui sont des vitrines, on va savoir ce qu'on vend. Donc quand on parle de grands systèmes d'armement qui sont des vitrines technologiques, on sait. Mais dans le détail, on ne sait pas.
On ne sait pas. On doit quand même en avoir une idée, non?
Oui, grâce au travail d'ONG ou d'associations qui tentent de recouper le maximum d'informations. C'est le cas de l'Observatoire des armements qui parle d'indices de présence très forts d'armes françaises au Yémen, et ça, dans tous les domaines. Comme l'explique l'un des membres de l'Observatoire, Tony Fortin.
Notre conclusion, c'est qu'il y a quand même 16 armes françaises qui sont utilisées au Yémen, 16 références, ce qui montre bien l'implication potentielle massive d'armement français sur ce théâtre d'opération dans tous les domaines. Ça peut être des frégates saoudiennes découvertes au large du Yémen. Ça peut être effectivement des drones de surveillance SAGEM. Ça peut être des chars Leclerc impliqués dans des offensives, notamment sur la côte ouest du Yémen. Ça peut être des blindés légers Panhard également vendus dans les années 90. Ça peut être également d'autres blindés légers plus récents vendus après 2015, à savoir des blindés légers Akhmad Bastion, destinés aux forces spéciales. Bref, il y a tout un éventail de matériel qui peut être utilisé. On a aussi des avions ravitailleurs Airbus A330 MRTT qui sont essentiels effectivement à la logistique des bombardements saoudiens. Et sans ces avions ravitailleurs, ce serait difficile de mener une campagne de bombardement.
Oui, donc on trouverait toutes sortes de matériel français, selon Tony Fortin, sans parler, Benoît, des instruments de télécommunication.
Ah oui, un marché sur lequel les entreprises françaises sont aussi très présentes, en Libye, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, mais aussi donc en Arabie Saoudite, à travers notamment une société française baptisée Aircom, comme l'explique le spécialiste de ces questions à Télérama, Olivier Tesquet.
Officiellement, Aircom vend des téléphones sécurisés à l'Élysée, vend des téléphones sécurisés au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense. Ils ont une filiale très discrète qui s'appelle Suneris et qui, elle, vend de l'interception un peu plus globale et massive, on va dire, et qui la vend à des pays étrangers, donc par exemple l'Égypte, mais aussi l'Arabie Saoudite. C'est des sondes qui s'appellent Cortex et Vortex, hein, donc qui se répondent mutuellement, et qui permettent de surveiller les télécommunications, y compris de le faire en temps réel, de géolocaliser très précisément, qui permet donc vraiment de dire tel téléphone est à tel endroit, ou tel téléphone a été en contact avec tel autre téléphone. Et donc ce système-là, qui est assez massif et très intrusif, a terminé entre les mains des Saoudiens.
Ouais, les Saoudiens qui sont donc des partenaires de poids, on le voit. Mais en même temps, Benoît, nos relations avec l'Arabie Saoudite, elles ne datent pas d'hier. Elles remontent à bien avant Emmanuel Macron.
Effectivement, historiquement, ces relations sont très anciennes. Si on prend les dernières années, en fait, dès 2009, les Français ont donné un coup de pouce aux Saoudiens dans leur guerre au Yémen, comme l'a révélé le journaliste du Figaro, Georges Malbruno.
L'Arabie Saoudite avait sollicité de la part de leur allié traditionnel, les États-Unis, la fourniture d'imagerie satellitaire. Barack Obama, connaissant le peu de précision des pilotes saoudiens, avait dit non. Qu'ont fait l'Arabie Saoudite, les dirigeants saoudiens? Ils ont demandé à Nicolas Sarkozy, au président français, la fourniture d'imagerie satellitaire. Nicolas Sarkozy, espérant en retour la signature d'un certain nombre de contrats qui étaient en négociation, a dit oui. Une entreprise française a fourni des émetteurs que des agents infiltrés positionnent au sol chez l'ennemi, donc en territoire yéménite. Donc c'est un matériel très sensible dont la fourniture requiert l'aval du président de la République.
Oui, en l'occurrence donc l'aval de Nicolas Sarkozy, mais ça a continué avec François Hollande.
Oui, un épisode permet de bien comprendre les choses. Il s'est déroulé au sein de la commission censée contrôler les exportations d'armes, où l'on retrouve notamment le ministère des Armées, des Affaires étrangères et des Finances. Ces discussions sont classées secret défense, mais on sait ce qui s'est passé début 2017 au sein de cette commission à propos d'un contrat destiné à l'Arabie Saoudite, et on le sait grâce à Jean Guinel.
Il y avait un contrat qui était en discussion pour une conclusion extrêmement rapide dans cet ensemble. C'était un contrat pour des canons de 155 mm qui sont montés sur des camions et qu'on appelle des César, canons César. Et donc, il y a eu des discussions. Le ministère des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a dit qu'il était irresponsable de vendre ses canons en ce moment à l'Arabie Saoudite. La situation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle était déjà pas très glorieuse. Le ministère de la Défense et le ministère des Finances voulaient vendre ses armes. Les Saoudiens ont expliqué aux Français que ces canons étaient destinés à la garde royale, qui n'a pour fonction que de protéger la famille princière. Ils ont apporté la garantie écrite que ces canons seraient pas utilisés au Yémen. Finalement, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a remporté l'arbitrage du Premier ministre. Et c'est François Hollande, le président de la République, qui a dit « on passe outre cet avis et moi je donne l'autorisation de lancer les discussions ».
Et je précise que nous avons contacté Jean-Marc Ayrault et François Hollande et qu'ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur cet épisode.
Ouais, donc ce qu'on comprend, c'est que les ventes d'armes françaises en Arabie Saoudite, c'est une vieille histoire, Benoît. Maintenant, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a un autre acteur important dans le conflit au au Yémen.
Oui, ce sont les Émirats arabes unis. On en parle souvent moins que les Saoudiens, mais la France entretient une relation particulière avec ce pays. C'est un autre client important en matière d'armement. La France a des accords de défense avec les Émirats arabes unis qui l'obligent à intervenir en cas de problème. En 2011, les Émiratis ont épaulé les Français lors de l'intervention en Libye. La France a même installé une base militaire à Abu Dhabi, une sorte de vitrine commerciale, estime Tony Fortin de l'Observatoire des armements.
Évidemment, Abu Dhabi est le centre commercial mondial de l'armement. Il y a des industriels américains, chinois, indiens. Et ça permet effectivement à la France de pouvoir écouler sa production dans ces zones-là, mais aussi d'irriguer les pays du Golfe. Donc c'est une zone effectivement très très stratégique. Et le fait le plus symptomatique au-delà de la base militaire, c'est aussi le fait que le dirigeant du principal groupe émirati en matière de défense, c'est un Français, un ex-dirigeant de Thales, dont le groupe industriel émirati a racheté une entreprise française de munitions Manurin, un nom emblématique effectivement de l'industrie d'armement française, et qui est un secteur effectivement extrêmement stratégique puisqu'il s'agit de la balistique.
Ah oui, Manurin appartient aux Émiratis. Et il y a d'autres secteurs stratégiques où Français et Émiratis collaborent.
Oui, et notamment le secteur de l'aide au renseignement grâce aux satellites. La France vend sa technologie à ses partenaires du Golfe, assure Marc Cher Leparin, qui a été attaché d'ambassade au Yémen.
La France a signé un contrat pour fournir un système satellitaire de reconnaissance militaire de la classe Pléiade. C'est un peu du niveau des satellites de reconnaissance militaire dont la France est dotée actuellement, qui est exporté aux Émirats Arabes Unis. Ça dote les Émirats Arabes Unis d'une capacité autonome de renseignement satellitaire. C'est stratégique.
Donc on aide les Émirats à faire du renseignement grâce à des technologies spatiales, mais on les aiderait également au sol.
Oui, alors bien sûr, c'est une information qu'il faut prendre avec précaution, mais dans le Figaro du 16 juin 2018, notre confrère Georges Malbruno, qui est l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient, affirme, lui, que des Français se trouveraient engagés au Yémen pour épauler des soldats des Émirats, et il maintient ces informations aujourd'hui.
Il y a des unités des forces spéciales françaises qui sont aux côtés des Émiriens, qui sont nos partenaires hein, au sol. Les forces spéciales françaises, elles aident aussi au ciblage, elles glanent du renseignement aussi. Donc ça va assez loin.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment la France a tissé des liens en matière d'armement et de renseignement avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mais revenons maintenant à la question qui nous préoccupe. Benoît, est-ce que des armes françaises sont impliquées dans la mort de civils au Yémen?
Alors, on l'a déjà un peu entendu tout à l'heure avec Florence Parly. Officiellement, la réponse est non. Et c'est, d'une manière générale, le discours du gouvernement. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'était le 23 novembre dernier. Sur France 2.
Nous avons des règles extrêmement strictes pour les ventes d'armes qui nous interdisent de vendre des armes qui puissent toucher les civils. Et en Arabie Saoudite, nous ne le faisons pas du tout puisque nos relations sont limitées surtout à la flotte.
Nos relations sont limitées à la flotte, c'est pas tout à fait ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure.
C'est vrai et c'est la raison pour laquelle, derrière le discours officiel, il y a quand même des inquiétudes qui se manifestent dans la coulisse, y compris au sein du Quai d'Orsay. Écoutez ce que m'a dit ce diplomate que j'ai rencontré et qui tient à rester anonyme. Ses propos sont donc lus par un journaliste.
Il y a une forme d'omerta sur le sujet. Le discours officiel s'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Les armes françaises sont censées s'arrêter à la frontière du Yémen et ne tuer aucun civil. C'est un mur de certitude. Le risque est totalement évacué. Tant qu'on n'aura pas découvert une arme made in France impliquée dans un crime de guerre, on restera dans cette attitude de déni.
Alors je précise qu'au Quai d'Orsay, on répond qu'on contrôle de manière très rigoureuse l'exportation des armes et qu'on se préoccupe du sort des civils. Toutes les sources officielles me parlent d'un risque qui serait, je cite, « sous contrôle ». Certains interlocuteurs m'ont même expliqué que ces armes seraient utilisées de manière défensive au Yémen.
Défensive, c'est-à-dire ?
Eh bien, c'est censé vouloir dire que ces armes françaises ne seraient utilisées qu'en riposte à des attaques rebelles au Yémen.
Et c'est crédible, ça ?
Écoutez là-dessus la réponse d'Eddy Bellassine, cet ancien responsable d'une société dans le secteur de la défense, a travaillé pendant 20 ans avec les pays du Golfe.
Il faut cesser de se réfugier derrière les mots. Lorsque l'on fabrique des armes, ces armes sont destinées à tuer. Et ceux qui tuent, ce ne sont pas les armes, ce sont ceux qui les utilisent. Il faut être clair, les armes françaises tuent des Yéménites, des civils bien entendu. Les armes françaises ne sont pas des armes inoffensives. Il faut cesser d'avoir ce discours et de croire qu'il y a des armes qui ne tuent pas.
Ouais, donc pour lui, il n'y a pas de doute, même s'il faut le rappeler, hein, Benoît, une certitude n'est toujours pas une preuve. Hein. Bon, cela dit, et ça peut apporter de l'eau à son moulin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que même les humanitaires se disent victimes des bombardements.
Ah oui, tous ceux qui sont sur le terrain me l'ont confirmé, les bombes tombent aussi parfois sur eux, comme en témoigne Caroline Séguin, qui travaille à Médecins Sans Frontières dans une vingtaine d'hôpitaux au Yémen.
Tous nos hôpitaux sont signalés avec les coordonnées GPS à la coalition, tous les toits des hôpitaux ont le logo MSF et ils sont éclairés la nuit. Donc la coalition est exactement au courant de où nous nous trouvons. Tous nos mouvements sont également signalés à l'avance à la coalition, ce qui n'a pas empêché en 2016 de se faire bombarder une ambulance par exemple, faisant plusieurs morts. On s'est retrouvé à 6 reprises, nos hôpitaux ont été bombardés depuis 2015, faisant 27 morts et 40 blessés auprès de nos patients et de notre personnel médical. Un centre de traitement choléra a été bombardé par la coalition, ce qui est évidemment inacceptable. On est devenu une cible comme une autre, ça c'est clair.
Oui, on est devenu une cible, nous dit Caroline Séguin. Or, qui bombarde ces camps ? Bah, forcément des avions, et là aussi il y a un doute.
Ben oui, parce que la coalition possède des avions qui ont été vendus notamment par la France. C'est ce qu'a constaté Hélène Leger, spécialiste des droits de l'homme, qui travaille depuis des années sur ce sujet.
La France a livré, avant le début du conflit, aux Émirats Arabes Unis des avions Mirage. Avions Mirage dont on sait, parce que ça a été documenté, qu'ils sont utilisés dans le cadre du conflit yéménite. Donc qu'est-ce qui garantit à la France que ces avions ne sont pas utilisés pour cibler des civils ? À ma connaissance, rien. Il n'y a pas de raison que les victimes civiles soient uniquement victimes de tirs effectués par d'autres avions que les avions Mirage. Ces avions Mirage ont été plus récemment équipés de systèmes de désignation laser qui sont censés aider à mieux cibler les cibles. Mais encore faut-il savoir qui ont cible, il peut y avoir des victimes civiles, des gens victimes de crimes de guerre perpétrés grâce à de l'aviation de fabrication française.
Ouais, il peut y avoir, même si, précisons-le, hein, il n'y a toujours pas de preuves, mais ce soupçon d'utilisation d'armes françaises, Benoît, il ne concerne pas que les airs.
Effectivement, on sait par exemple que les Saoudiens utilisent aussi des canons français le long de leurs frontières. Et ça aussi, pour Aymeric Helouin d'Amnesty International, ça peut poser problème.
Ce que nous avons documenté, par exemple, c'est l'utilisation de canons d'artillerie César, donc produits par Nexter. C'est des canons de 155 mm qui sont montés sur camions, hein, et donc qui sont déplaçables à l'envi, qui ont une portée d'un peu plus de 40 km. Nous, aujourd'hui, notre inquiétude, c'est de voir plein jour des canons César, vendus par la France, même s'ils sont à la frontière saoudo-yéménite, utilisés avec en face d'eux des civils.
Ouais, nouvel élément qui inquiète, mais cette inquiétude, elle n'est pas que le fait d'ONG. Les Nations Unies sont en train, de leur côté, de regarder de près ce qui se passe sur le terrain.
Oui, un groupe d'experts du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a enquêté sur place et leur conclusion est sans appel. Toutes les parties au conflit, et notamment les pays de la coalition, sont soupçonnées de crimes de guerre. Écoutez le président de ce groupe d'experts, Kamel Gendoubi.
Il y a des faits qui sont susceptibles d'être qualifiés de crimes de guerre. Plusieurs objectifs civils ont été attaqués. C'est des cortèges funèbres, c'est des mariages, des marchés, c'est des hôpitaux aussi qui ont été attaqués. Il y a des immeubles détruits, des quartiers civils où il n'y a aucun objectif militaire autour de ces lieux-là.
Et donc, c'est ce type d'attaque contre des civils qui pourrait potentiellement être qualifié en crime de guerre.
Absolument. Ce risque-là est réel.
C'est-à-dire que vous avez remis une liste de responsables présumés de crimes de guerre, une liste que vous avez remise au haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU.
Absolument, ce sont ici une liste qui est composée aussi bien des personnes militaires que des personnes civiles. Cette liste-là a été remise au haut commissaire, comme notre mandat l'indique.
Ah oui, donc il y aurait une liste noire des potentiels responsables des crimes de guerre. Et il y a des Français dans cette liste ?
Alors non, cette liste, elle concerne uniquement les protagonistes directs de la guerre au Yémen, du côté des rebelles comme du côté de la coalition.
Ouais, donc pas de Français à ce stade montrés du doigt par l'ONU. Maintenant, il n'y a pas que l'engagement d'armes françaises qui pourrait poser problème au Yémen, Benoît. Il y a aussi la question de la maintenance, parce que quand bien même on utiliserait, c'est ce que disait tout à l'heure Florence Parly, du matériel français vendu avant la guerre, eh bien la maintenance de ces engins, elle a bien lieu aujourd'hui.
Oui, et ça, c'est un point clé dans cette affaire. Ce n'est pas uniquement des armes qui sont vendues à l'Arabie Saoudite, c'est aussi tout un accompagnement technique, explique Eddy Bellassine, qui a longtemps travaillé avec les Saoudiens.
Ce qui caractérise l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle achète des systèmes d'armes. Elle n'achète pas des armes proprement dites, elle achète des systèmes du clé en main, du prêt à emploi. C'est-à-dire que si elle achète, par exemple, des hélicoptères, elle va non seulement acheter les hélicoptères, mais les armes qui vont avec, toutes les infrastructures, c'est-à-dire une base aéroportée, elle va acheter les hangars, elle va acheter les outils de maintenance, elle va louer les techniciens qui seront chargés de la maintenance. C'est une chaîne, c'est une vente qui et finalement une coopération durable avec un fournisseur.
Ouais, donc les Saoudiens achètent des armes, mais aussi leurs services après-vente.
Absolument, et c'est là que potentiellement il pourrait y avoir un risque juridique pour les entreprises françaises, estime Hélène Leger.
Toute l'activité menée par les entreprises françaises aux côtés des Saoudiens et aux côtés des Émiratis pour faire en sorte que le matériel de guerre utilisé au Yémen fonctionne, le matériel de guerre de fabrication française, ça peut être problématique. Cette assistance portée par les entreprises françaises aux militaires saoudiens et émiratis peut être constitutive de crimes de guerre si effectivement ça concerne du matériel qui est utilisé à l'encontre des civils yéménites.
Oui, donc elle considère que des entreprises pourraient potentiellement être inquiétées. Et puis il y a autre chose qui peut poser problème, Benoît, et on n'y pense pas forcément d'ailleurs quand on parle du Yémen, c'est ce qui se passe en mer.
Ben oui, parce que toute une partie de l'aide humanitaire est régulièrement bloquée par des navires de la coalition, et cela aussi, ça pourrait être lourd de conséquences, estime le président du groupe d'experts des Nations Unies qui a enquêté sur place, Kamel Gendoubi.
Le Yémen importait pratiquement tout de l'extérieur. L'impact considérable de ces restrictions sur la population civile est énorme, énorme. Les femmes et les enfants sont les principales victimes du conflit au Yémen. En application du droit humanitaire international, oui, il peut y avoir qualification de crime de guerre. Il faut que l'intention soit aussi prouvée par le tribunal ou par l'instance judiciaire qui doit statuer sur ces affaires-là.
Et le risque existe.
Le risque existe, c'est clair, net.
Oui, risque de poursuite judiciaire. Donc encore faut-il, on l'entend, et c'est important de le relever, c'est plus qu'une nuance, qu'il y ait, vous l'avez entendu, intention de commettre un crime de guerre. Bon, une fois qu'on a dit ça, cela dit Benoît, en quoi la France pourrait être concernée par ce blocus maritime ?
Eh bien, elle est potentiellement concernée parce qu'elle a vendu des navires à la marine saoudienne ou émiratie, ou parce qu'elle leur fournit, là encore, une assistance technique, ce qui la met forcément en première ligne dans cette affaire, estime Hélène Leger.
Cette restriction à l'accès des biens de première nécessité qui font mourir des enfants yéménites, ce problème, cette crise humanitaire suscitée par ces restrictions d'accès sont dénoncées depuis le tout début du conflit. Malgré ça, a priori, les entreprises françaises ont continué à fournir du maintien en condition opérationnelle sur les navires de guerre de fabrication française, saoudien et émiratis. De la maintenance, de la modernisation, effectivement de la fourniture de pièces de rechange, et donc il y aurait du personnel français qui serait déployé en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, pour entretenir ce matériel, alors même que ce matériel est utilisé pour commettre un crime de guerre.
Oui, un crime de guerre, mais là encore, Benoît, précisons-le, on ne parle plus là de la France en tant que pays. Hein. Ce dont on parle, c'est bien des entreprises françaises.
Oui, des entreprises qui, vous l'avez entendu, interviennent pour faire de la maintenance ou du maintien en conditions opérationnelles et qui, du coup, ne sont pas à l'abri d'un risque juridique, en tout cas pour l'avocate Laurence Gregg qui a rédigé un rapport sur le sujet.
Il y a des groupes, notamment français, comme Naval Group, par exemple, qui ont des accords avec la marine saoudienne et qui sont présents. Qui sont présents depuis un moment et qui le sont encore aujourd'hui, au moment où je vous parle. Il faudra une preuve tangible de l'action de ces bateaux sur ce théâtre-là pour mettre en jeu leurs responsabilités, mais leur simple présence sur une scène de crime de guerre, c'est un indice extrêmement fort d'une responsabilité éventuelle.
Ouais, d'où des éventuels risques de poursuite. Et chez Naval Group, Benoît, on en dit quoi ?
L'entreprise n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais elle précise qu'en tant qu'industriel, son action s'inscrit, je cite, « dans le strict cadre de la réglementation française en matière de vente d'armes à l'exportation, y compris donc en Arabie Saoudite ».
Ouais, donc officiellement, pas d'inquiétude. Bon, cela dit, compte tenu de tout ce qu'on vient d'expliquer, de nombreuses associations, ONG, réclament quand même désormais qu'on arrête de vendre des armes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen.
Oui, c'est notamment le cas de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine qui a saisi le tribunal administratif à ce sujet. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a répondu de son côté que ces exportations d'armes étaient directement liées aux relations internationale de la France et donc elle ne pouvait pas être contestée.
Bon, à suivre, on verra ce qu'en dira le tribunal. Maintenant, il faut aussi préciser une chose, Benoît, c'est que si on s'en tenait au texte, ben on peut se demander si la France a le droit de continuer de vendre des armes aux Saoudiens.
Effectivement, parce que la France a signé un texte européen et un traité international sur le commerce des armes. Un traité qui lui impose de ne pas vendre d'armes s'il y a un risque que ces armes puissent servir à commettre ou à faciliter des violations des droits de l'homme ou du droit humanitaire.
Mais ça veut dire qu'on violerait potentiellement le traité qu'on a signé ?
Alors formellement, oui, sauf que ça n'a aucune conséquence. Et vous allez comprendre pourquoi en écoutant à nouveau Hélène Leger.
Si l'État français, concrètement, viole ses engagements internationaux, un citoyen français ou même un citoyen yéménite ne peut pas aller devant un tribunal français pour dire « vous avez violé vos engagements internationaux ». Pourquoi ? Parce que la France, le gouvernement français, très certainement sciemment, s'est gardé d'intégrer en droit français les critères posés par le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne.
C'est-à-dire que ces traités n'ont pas été transposés dans le droit français ?
Exactement. Ces traités n'ont pas été transposés dans le droit français. On a une espèce de vide juridique qui fait qu'il y a un droit international strict, mais si l'État français le viole, on n'a que nos yeux pour pleurer.
Voilà, concrètement, ça veut donc dire qu'un citoyen ne peut pas contester des licences d'exportation d'armement. De son côté, le Quai d'Orsay considère que la France respecte tous les traités qu'elle a signés.
Oui, mais Benoît, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour avoir un avis tranché, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant hein, sur le sujet, encore faudrait-il disposer, on parlait de preuves tout à l'heure, mais au moins d'éléments concrets et précis. Or, on a vu qu'il est très difficile d'en obtenir.
Oui, et c'est la raison pour laquelle plusieurs parlementaires réclament un débat sur cette question des ventes d'armes. C'est le cas de l'ex-député La République En Marche, Sébastien Nadeau, exclu récemment pour ne pas avoir voté le budget. Il a bien tenté de lancer une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes au Yémen, en vain. Voilà ce qu'il m'a confié avant même son exclusion.
Là, de manière très simple, on m'a dit, en gros, qu'il y avait des enjeux économiques qui étaient trop importants et que donc il fallait mettre ça sous le tapis. C'est business is business. Pour moi, on est dans une zone d'ombre organisée. Il y a véritablement une chape de plomb, on veut en dire le minimum, et pour l'instant, on y arrive.
Ouais, on y arrive, ça veut dire pas de commission d'enquête donc, mais il y aura quand même une mission d'information.
Une mission d'information de la commission des affaires étrangères qui vient d'être mise en place, mais une mission, elle a forcément moins de pouvoir qu'une commission d'enquête. Le co-rapporteur de cette mission, le député La République En Marche, Jacques Maire, un ancien diplomate, dit vouloir corriger d'éventuels dysfonctionnements, mais sans remettre en cause la politique de la France.
Je pense qu'il y a des zones à risque. Et dans ces zones à risque, le risque zéro n'existe pas. Est-ce que ces risques se traduisent par des utilisations illégales par rapport à un contrat existant ? C'est tout à fait possible. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il a respecté le droit dans le contrôle de l'exportation. Et moi, je ne suis pas là pour remettre en cause, a priori, la position du gouvernement. Il faut donner aux Français les garanties qu'on fait le maximum pour contrôler les risques. Mais deuxièmement, il faut aussi bien faire en sorte que l'armée française et l'armement français plus généralement, qui sont des outils majeurs de notre contribution à la paix et à la stabilité internationale, ne soient pas fragilisés.
Voilà donc pour l'approche de Jacques Maire sur ce dossier. Alors on va en rester là, mais provisoirement. Restez avec nous dans quelques instants. On ouvre un autre chapitre. On va évoquer l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. assez doux, un peu planant, très 70s en même temps. C'était To Be d'Andy Schauf avec les Canadiens du groupe Fox Warren.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
Alors, retour à notre enquête sur les armes françaises et le Yémen. Et on va maintenant, comme promis, revenir sur l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste opposant à Riyad, assassiné au consulat saoudien d'Istanbul. Parce qu'à la suite de cette affaire, Benoît Colombat, eh bien, plusieurs pays européens ont suspendu leur livraison d'armes aux Saoudiens.
Oui, c'est le cas notamment de l'Allemagne ou du Danemark. Même aux États-Unis, l'allié historique des Saoudiens, des sénateurs américains ont réclamé la suspension des ventes d'armes à Riyad ainsi que le ravitaillement en vol des avions saoudiens. Mais en France, en revanche, on ne veut pas mêler l'affaire Khashoggi à la question des ventes d'armes. Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron lorsque des journalistes l'ont interrogé à ce sujet. C'était le 26 octobre dernier à Bratislava.
Quel est le rapport entre la vente d'armes et l'assassinat de M. Khashoggi? Je comprends le lien avec le Yémen, mais il n'y en a aucun avec M. Khashoggi. Si on veut prendre des sanctions, il faut prendre des sanctions dans tous les domaines. Il faut dans ces cas-là arrêter de vendre des véhicules, il faut arrêter de vendre telle ou telle chose, ou il faut prendre des sanctions individuelles contre ceux qui l'ont fait. Mais c'est de la pure démagogie que de dire qu'il faut arrêter de vendre les armes. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Khashoggi. Ce qui a à voir avec les ventes d'armes, c'est la situation du Yémen. C'est là où il faut avoir un suivi très étroit. Mais il ne faut pas tout confondre dans les débats que nous avons aujourd'hui.
Ouais, faut pas tout confondre, dit le chef de l'État. Bon, en même temps, Benoît, ça peut s'entendre. En quoi cette affaire serait-elle liée à nos ventes d'armes?
Eh bien, il faut savoir que parmi les personnes poursuivies aujourd'hui dans l'assassinat de Jamal Khashoggi, il y a un homme, le général Ahmed al-Assiri. Or, c'est quelqu'un que les spécialistes français de la défense connaissent bien et qui a joué un rôle dans le conflit yéménite, explique le journaliste Georges Malbruno, expert de la région.
C'est un général qui est proche du prince héritier Mohammed bin Salman, qui venait à Paris régulièrement. Il a participé le 24 mars 2018 à un colloque à l'Assemblée nationale. Il a été le porte-parole de l'armée saoudienne dans sa guerre contre les Yéménites. Et c'était surtout à partir de là, je veux dire, l'interface des Français dans la fourniture des images satellitaires que le centre de Creil livrait à l'Arabie saoudite. C'est aussi celui qui était un peu l'homme des Français dans le cadre de négociations qui ont lieu depuis quelques années pour la vente d'un satellite d'observation militaire à l'Arabie saoudite. Donc un personnage qui, pour Paris, était précieux.
Ouais, précieux dans le cadre de nos contrats avec l'Arabie saoudite. Bon, cela dit, Benoît, faut pas être naïf non plus, quels que soient les écueils ou les arguments qu'on peut avancer dans cette affaire de vente d'armes, la France n'a pas intérêt à fermer le robinet.
Et cela pour une raison très simple, décrypte l'ancien attaché d'ambassade au Yémen, Marc Cherle-Parrain.
Ce sont avant tout des enjeux financiers, des enjeux économiques, qu'il ne faut pas voir séparément, enjeux franco-saoudiens, enjeux franco-émiriens, enjeux franco-koweïtiens ou franco-qatariens. Il faut les voir dans leur ensemble. Si on se désengage avec l'un de ces pays, ça peut avoir des répercussions assez graves vis-à-vis des relations que l'on a avec les autres pays alliés de ce pays avec lequel on s'est désengagé. Répercussions économiques, évidemment.
Et puisqu'on parle de répercussions économiques, Benoît, faut aussi évoquer un acteur incontournable dans la région et qui explique d'ailleurs aussi sans doute qu'on n'ait pas envie de froisser nos amis du Golfe.
Oui, il s'agit du géant pétrolier Total. Au Yémen, l'entreprise est actionnaire principale dans un projet de gaz naturel liquéfié, un projet qui est à l'arrêt depuis 2015. Mais Total est très présent aux Émirats Arabes Unis, confirme le directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions énergétiques, Francis Perrin.
Les Émirats Arabes Unis sont un pays extrêmement important pour Total, le plus important dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et l'un des plus importants dans le monde. Une production pour Total en 2017 de 290 000 barils équivalent pétrole par jour, ce qui inclut le pétrole et le gaz naturel. Total a aussi une présence moins importante, mais en Arabie Saoudite, dans le domaine du raffinage. Donc c'est évidemment pris en compte par la diplomatie française, le fait que le champion national français, même si c'est un groupe privé,
qui est mondial,
dans le secteur stratégique du pétrole et du gaz, a de très gros intérêts dans deux pays de la région qui sont engagés dans la même coalition, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.
Ouais, donc les enjeux économiques ont une influence sur les choix politiques et ceci explique d'ailleurs peut-être aussi la chape de plomb qui pèse sur la question des ventes d'armes. Maintenant, et pour conclure, Benoît, est-ce que c'est partout aussi opaque?
Alors non, il y a des pays où le contrôle politique sur ces questions est beaucoup plus important et où on n'hésite pas à enquêter sur les ventes d'armes, comme le constate Imri Kelluin d'Amnesty International.
Quand on regarde les débats au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, ils sont beaucoup plus forts. Pourquoi en France, on en est encore au stade embryonnaire où c'est le gouvernement qui dit « vous inquiétez pas, tout va bien et puis on ne vend pas des armes comme des baguettes de pain ». Non, non, il faut aller au cœur du sujet, il faut fournir des détails, il faut qu'il y ait absolument un débat contradictoire permettant de s'assurer que la France respecte le droit international lorsqu'elle vend des armes. Vous savez, l'enjeu finalement, c'est de faire quoi? C'est que les ventes d'armes, elles deviennent un sujet au présidentiel comme les autres.
En attendant, la mission d'information parlementaire qui se penche sur le sujet s'est donnée plusieurs mois pour rendre ses conclusions, mais la plupart de ces auditions devraient se dérouler à huis clos. Il y a donc encore du chemin à faire pour obtenir un minimum de transparence sur toutes ces questions.
Oui, on en restera là pour aujourd'hui. Merci pour cette enquête, Benoît Colombat. Alors, je précise qu'on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez en même temps nous faire part de vos commentaires, comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Sonia Leglen, avec à la technique Nasser Moussaoui et une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, Denis Chessou va lui vous emmener à Lyon, dans la vallée de la chimie. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.